Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous j'ai dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. On a beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de choses à voir ce soir encore en direct jusqu'à 20h évidemment. D'abord, cette bonne nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Figurez-vous qu'en 2023, il n'y a jamais eu autant d'entreprises étrangères qui ont pris la décision de venir investir en France. Record battu à tous les niveaux. On va voir ça avec Thomas Asportas, bien sûr, dans un instant. On va aussi beaucoup parler immobilier ce soir, puisque c'est la PDG du groupe Nexity qui sera avec nous dans quelques minutes avec Edwige Chevrillon, Véronique Bédag. Vous savez que Nexity a annoncé hier le lancement d'un PSE pour faire face à la crise du neuf. On en parlera avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dès 18h30. On parlera aussi avec eux de cette idée qui commence à faire son chemin un peu partout dans le monde, taxer les milliardaires. Même Bruno Le Maire a l'impression d'adhérer à cette idée, on l'écoutera. Et puis Emmanuel Macron qui a inauguré fièrement ce matin le futur village olympique du côté de Saint-Denis. Qu'est-ce que ça nous dit que l'image que la France doit donner, de l'image que la France veut donner à l'occasion de ces Jeux Olympiques? On brainstormera là-dessus aussi avec nos experts. Voilà le programme, non exhaustif bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h, bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Faut être clair, quand on a des bonnes nouvelles, faut en profiter. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Bah oui, parce que le chiffre vient de tomber, 2023, donc je le disais, record de décisions d'investissement en France de la part de sociétés étrangères. 1815 décisions pour être précis, ça veut dire qu'on a battu le record 2022 là Thomas.
Voilà, l'année dernière, en 2022, c'était 1725 projets. L'année dernière, on est passé à 1815, donc on a franchi une petite marche supplémentaire. Ça représente 35 décisions d'investissement étrangers en France par semaine. Et l'Élysée nous dit, enfin l'Élysée et Business France, puisque tout ça c'est d'après le baromètre annuel de Business France, que ces investissements vont créer ou préserver 59 254, c'est très précis, emplois dans le pays dans les trois prochaines années. Alors ça évidemment le gouvernement s'en félicite. Dans un contexte économique international qu'on connaît évidemment très difficile et qui pénalise avant tout l'Europe, qui est la grande perdante de la conjoncture, puisque les investissements directs étrangers en Europe, ils ont reculé l'an dernier de 23%.
Ah oui.
Donc évidemment, la France se félicite d'augmenter son attractivité et d'augmenter le nombre de projets d'investissements étrangers sur son sol, sachant que dans le même temps, en Europe, ça recule.
Ouais. Et alors, grande question, quels sont les pays qui viennent investir chez nous alors?
Alors, l'Europe, justement. L'Europe, ça représente deux tiers des projets. L'Allemagne est le deuxième investisseur, avec 15% des investissements. La Belgique et l'Italie, à eux deux, ça fait aussi 15% des projets. Le Royaume-Uni est à la troisième place avec 10%. Mais le pays étranger qui investit le plus en France, ça reste les États-Unis. Plus de 300 investissements l'année dernière, malgré le baromètre publié hier par la Chambre franco-américaine de commerce, par l'AMCHAM et par Bain, dont on a beaucoup partu hier soir, ici justement dans Good Evening, et qui montre que la perception des maisons mères américaines sur la France se dégrade, avec tous ces vieux démons français qui remontent à la surface, coût du travail, la complexité administrative, le climat social. Et l'Élysée aujourd'hui a réagi à ça, en prend bonne note et répond avec que tout un tas de réformes vont pas tarder à arriver, la simplification, l'attractivité de la place de Paris ou encore la réforme travail.
Et alors, question subsidiaire, quand on vient investir en France, c'est pour faire quoi exactement?
Oui, c'est une question importante. Donc, les quatre principaux secteurs, c'est dans l'automobile, c'est un projet sur cinq quand même. La santé, la mécanique et l'agroalimentaire. Ouais. Ensuite, le gouvernement se félicite aussi que 30% des investissements aillent dans France 2030. Vous savez, les filières d'avenir subventionnées par l'État, les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries. Ça montre que les investisseurs étrangers, ils investissent justement dans l'avenir de la France. Et enfin, le dernier point, c'est que les investissements, c'est pour moitié des créations de sites et pour l'autre moitié des extensions de sites. Et ça aussi, c'est vu très favorablement par le gouvernement parce que ça montre qu'une fois qu'un groupe vient en France, il reste et il remet au pot.
Voilà pour ces chiffres. Business France, donc, a publié ces chiffres il y a de ça quelques minutes. Effectivement, ces chiffres, donc, des décisions d'investissement de la part des sociétés étrangères en France. Record battu en 2023. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Je vous disais, ça va mal pour le promoteur Nexity. Le titre a perdu 20% ce soir à la Bourse de Paris après l'annonce des résultats hier soir. Et puis, entre autres, la suppression du dividende 2023 pour les actionnaires. Nexity qui a donc aussi annoncé le lancement d'un plan social en France. Sa PDG, Véronique Bédac, sera donc avec Edwige Chevrillon dans quelques minutes sur BFM Business. Ça va mal dans le neuf, mais dans l'ancien, on a des chiffres des notaires qui sont tombés ce matin, qui nous disent quoi ? Qu'en moyenne, les prix sur 2023 ont baissé de 4%. En moyenne, parce que dans les grandes agglomérations, ça a été parfois beaucoup plus. Marie-Cœur de Roy.
C'est en Île-de-France que le retournement est sans doute le plus brutal aujourd'hui. Selon les notaires du Grand Paris, en Île-de-France, on a perdu 47 000 ventes sur la seule année 2023 par rapport à 2022. C'est une baisse de 25%. Dans le même temps, les prix se sont ajustés, moins 7% environ sur un an. Même tendance à Paris et les projections des notaires montrent que les prix devraient continuer à baisser. Sans doute 9 400 euros du mètre carré à Paris au mois d'avril prochain. Ça représenterait une baisse de plus de 8% sur un an. Plus symbolique encore dans la capitale, les écarts de prix en fonction des quartiers. Le quartier le moins cher de Paris, en l'occurrence La Chapelle dans le 18e arrondissement, flirte avec les 7000 euros du mètre carré. Le quartier le plus cher, Notre-Dame dans le 4e arrondissement, frôle les 18000 euros du mètre carré. Cette tendance à cet ajustement très fort des marchés, elle se vaut aussi dans les autres grandes agglomérations. À Lyon, les prix ont baissé de près de 9,5% l'an dernier, nous disent les notaires. Même Marseille, qui résistait jusqu'à présent, est de nouveau en baisse. Moins 3,5% en 2023. A priori, la situation devrait rester incertaine en cette année 2024, même si les notaires relèvent à leur tour le comportement changeant des banques qui sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui à la distribution de crédit.
Voilà l'atterrissage qui se confirme donc dans l'ancien. Marie-Cœur de Roy avec nous sur BFM Business. Il y a eu encore beaucoup de réactions aujourd'hui après les bénéfices annoncé hier soir par la SNCF sur 2023, 1,3 milliard d'euros. Un représentant de Sudrail, qu'on entendra tout à l'heure d'ailleurs, a notamment remis sur le tapis ce matin l'idée d'une grève si on ne reprenait pas rapidement les négociations salariales avec la direction. La SNCF, qui l'a par ailleurs annoncé ce matin, elle va fermer pendant quelques jours, alors en novembre, du 9 au 13, la ligne TGV Paris-Lyon. 4 jours de travaux, mais pour faire un vrai bond technologique apparemment. Jean-Baptiste Huette.
1000 personnes mobilisées, 101 heures de fermeture. Selon SNCF Réseau, un tel chantier sur une ligne à grande vitesse est une première mondiale. Il s'agit de moderniser la signalisation ferroviaire et de passer à l'ERTMS, Système Européen de Gestion du Trafic Ferroviaire. Concrètement, cette modification va permettre de connaître la position exacte et la vitesse de tous les trains en temps réel, et donc de réduire l'espacement entre les rames. De quoi augmenter la capacité sur la ligne Paris-Lyon de 13 trains par heure à 16, soit un gain de 25% sans nouvelles infrastructures. Une technologie qui se déploie progressivement en Europe depuis une vingtaine d'années. Il a fallu 5 ans de travaux pour construire 58 nouveaux postes d'aiguillage et un nouveau centre de commande à Lyon. Un saut technologique qui a un coût faramineux, 860 millions d'euros, principalement à la charge de SNCF Réseau. Un investissement qui permet d'abord de moderniser, d'entretenir le réseau ferré, de réaliser des gains de productivité, mais aussi de le préparer doucement à l'arrivée des futurs trains autonomes.
Voilà la SNCF qui nous prévient donc, cette ligne TGV Paris-Lyon qui sera fermée du 9 au 13 novembre prochain. C'est bien de prévenir maintenant, c'est quand même la première ligne fréquentée en Europe. 18h07, on va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Brack depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, il s'est passé apparemment pas mal de choses aujourd'hui à la Bourse
de
Paris.
Oui, c'est un calme plat, mais en apparence, puisque vous avez un CAC 40 qui cède certes 0,3%, mais ce matin, il a touché un record à 7977 points. Et puis alors, hors CAC 40, vous avez des réactions spectaculaires suite à la publication de certains résultats. Regardez, EuroAPI qui a perdu 50% en séance, moins 43% ce soir à la clôture, après des résultats sous les attentes et des prévisions sous les attentes. Le titre est sur des plus bas historiques à 3,85€. Vous avez Air France qui est sur des plus bas historiques après une baisse de 8,6%, avec là aussi une perte inattendue attendu au quatrième trimestre, 10,43€. Nexity perd 20%, là aussi après avoir abandonné le détachement d'un dividende, 10,61€. Et puis à l'inverse, le secteur des EHPAD, qui était en grande difficulté depuis des mois, voire même des années, reprend un peu des couleurs. Clariane, l'ex-Corian, gagne 12% ce soir, la clôture à 1,99€ après avoir annoncé la vente de ses activités au Royaume-Uni, le tout dans une tendance légèrement négative, alors que les chiffres d'inflation qui ont été publiés tout à l'heure aux États-Unis sont ressortis conformes aux attentes. 2,4% d'inflation au mois de janvier après 2,6% au mois de décembre. Donc ça va mieux en France, idem avec une inflation qui est au plus bas depuis septembre 2021 à 3,1%. Mais tout ça, bien sûr, c'était anticipé par les marchés, des chiffres conformes aux attentes qui n'ont pas eu de grosses réactions, que ce soit sur les indices et sur l'obligataire. Et donc un indice parisien qui a touché un record aujourd'hui avant de s'établir à 7927 points ce soir à la clôture.
On attend toujours les 8000, Étienne. Merci beaucoup depuis Euronext. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. À mi-séance, le Dow Jones a ses calmes aussi, moins 0,2%, 38861 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille, lui, 0,2%, 15986 à la mi-séance. 18h09, Véronique Bédague, présidente directrice générale de Nexity et l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. Bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est quelqu'un qui voit son titre de bourse chuter de plus de 20%. Bonsoir Véronique Bédague.
Bonsoir Edwige Chevrillon, je suis ravie d'être avec vous ce soir.
Merci d'être là. Vous êtes donc la patronne, la PDG de Nexity, le premier promoteur immobilier français. Et effectivement, après l'annonce de vos résultats et peut-être aussi ou surtout de la suspension de votre dividende au titre de 2023, vous avez perdu plus de 20% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Vous attendiez une telle chute, ou comment vous l'expliquez ?
Écoutez, moi je pense qu'on est leader sur un marché qui a perdu, qui a reculé, enfin c'est quand même, les chiffres sont très intéressants, de 40% en deux ans. C'est-à-dire qu'avec la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la production de prêts immobiliers, nous intervenons sur un marché qui s'est replié de 40%. Et c'est au fond les conséquences de ce retrait que l'on voit aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est vraiment au creux de la crise et qu'on commence à voir quelques lueurs, au fond, importantes. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont se déclencher, mais à l'évidence, il va y avoir une baisse des taux d'intérêt. Sur le journal de BFM Business, on voyait que, au fond, l'inflation en France et aux États-Unis était meilleure que prévu. Donc, à un moment, les taux vont commencer à baisser. Les analystes pensent que, de l'ordre de 1 point cette année, 1 point, c'est 10% de pouvoir d'achat de mieux pour nos clients. C'est vraiment énorme. Et puis, vous savez à quel point j'ai pu être critique dans le passé, mais mon sentiment, c'est que vraiment, le gouvernement a pris la mesure de la crise et de l'impact de cette crise, surtout sur l'emploi et sur les Français.
Ce qui n'était pas le cas avant ?
Vous savez bien que non, ça n'était pas le cas avant, ou pas dans ces proportions. Le Premier ministre a mis le logement en priorité dans sa déclaration de politique générale. Ça n'était pas arrivé depuis 7 ans.
On va aller chercher avec
les dents. Oui. Voilà. Non, mais ça dit quand même quelque chose. Et puis, on a un ministre du logement qui est vraiment, je pense, aujourd'hui, complètement en phase avec les diagnostics que l'on fait sur les besoins, sur les causes de la crise de la demande et sur la crise de l'offre.
Véronique Bédague, on va rentrer effectivement un peu plus dans le détail quand même. Juste par rapport à vos résultats, vous disiez, notre marché, là, on est premier promoteur immobilier, donc vous prenez tout de plein fouet, évidemment. Bon, si je regarde votre résultat net, il a chuté de 82%. Donc là, vous avez doublé, si j'ose dire, la baisse du marché.
Oui, mais le résultat net, c'est moins significatif que le résultat opérationnel qui, lui, a baissé d'un tiers. Et je vous rappelle que nous avons fait ce que nous avons dit en 2023. Nos résultats sont au rendez-vous. On avait dit qu'on se désendettait, on avait dit qu'on accélérait sur la régénération urbaine et sur l'exploitation. On a fait tout ça. Notre dette, qui était très regardée, était inférieure en cette fin d'année par rapport à l'année précédente.
Oui, et puis vous avez annoncé un plan social, on y reviendra là aussi. Juste encore un point, est-ce que pour vous, votre chiffre d'affaires, donc, lui, il a baissé de 9,10% à 4,27 milliards à peu près, est-ce que vous attendiez quand même, quand je vous disais vous attendiez à une telle chute, est-ce que c'est la suspension du dividende qui explique tout et pourquoi avoir fait, j'ai envie de dire, ce choix-là ? Parce que c'est un choix qu'on... Là, tous les résultats sont en train de tomber. Je pense que vous êtes la seule aujourd'hui, enfin la seule figure cotée.
Mais de nouveau, on est, nous, complètement en bas de la crise. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de suspendre le dividende ? Parce qu'on a d'abord un objectif de désendettement, très important dans le moment. Et deuxièmement, on a décidé de lancer dans les prochaines semaines une consultation avec nos organisations syndicales sur un plan de sauvegarde de l'emploi. Et vous savez très bien que dans une entreprise, les bonnes pratiques consistent à faire partager à la fois par les salariés et par l'actionnariat.
Oui, enfin, c'est pas une bonne pratique qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, hein, quand même. Au contraire, certains disent il faut plutôt augmenter les dividendes pour fidéliser notre actionnariat.
Écoutez, le choix qu'on a fait, c'est de partager l'effort et de nous désendetter. C'est un choix qui était dans le marché, on l'avait dit. On l'avait dit depuis la fin de l'année que c'était le choix qu'on allait faire.
Ça vous fait une économie de combien ?
À peu près 140 millions.
Oui, donc évidemment, c'est quelque chose d'important. Est-ce que cette crise de l'immobilier, vous avez dit, c'est une crise de l'immobilier inédite ?
Oui.
Par son ampleur, oui. Et par aussi toutes ses ramifications, en fait. C'est un choc d'offres. Et un choc de demande aussi. Qu'est-ce qui pour vous a le plus percuté ? C'est les mises en chantier ?
Au fond, c'est une tempête parfaite. Ça touche l'immobilier de bureau. Il y a une suroffre de bureaux compte tenu de ce qui s'est passé, des changements d'habitude. Et puis, il y a un retrait très important des prêts immobiliers. Donc, c'est une crise qui est à la fois logement et bureau. Les grands anciens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est une crise de l'offre, puisqu'on a malgré tout toujours des problèmes pour obtenir des permis et pour densifier les villes, alors même que, vous le savez, il y a une politique de protection au fond des milieux et donc de moins d'artificialisation. Et puis on a ce problème, effectivement, de demande qui est très important. Donc en fait, on a tout.
Vous dites on est au creux de la crise. Pourquoi vous avez cette dose d'optimisme ? Vous me direz aujourd'hui, ça vous fait du bien, Véronique Bédag.
Non, là, pour le coup, je pense que je n'ai jamais été pessimiste ou optimiste. Vous pouvez me rendre cela que j'ai au fond dit les choses comme elles étaient à chaque fois. Là, ce que je vois, c'est que les taux d'intérêt vont baisser. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça commence. Ouais. Et on a quand même un consensus sur le fait que ça pourrait baisser de 1 point. Un point, c'est énorme. Les Français ont perdu 25% de pouvoir d'achat en 2 ans. Si cette baisse intervenait, on récupérerait 10% de pouvoir d'achat, la moitié. Et puis, n'oubliez pas qu'en 22, 23 et 24, les salaires ont augmenté. Et l'augmentation moyenne des salaires a permis aux Français de récupérer la moitié de ce pouvoir d'achat immobilier qu'ils ont perdu à cause de la hausse des taux. Donc on commence quand même à voir des choses plutôt positives.
Est-ce que vous pensez que, notamment les banquiers centraux, ils ont mal anticipé l'impact de cette hausse des taux, notamment sur la production de crédit immobilier ? Parce que la chute, elle a été extrêmement forte en 2023,
oui, elle était de 40%. Et puis elle est générale en Europe. Je pense que le problème de la politique monétaire, c'est que c'est très très compliqué à monitorer. C'est-à-dire que les effets, d'abord le temps d'arriver sur l'économie et l'ampleur, ne sont pas mécaniques.
Oui, quand vous dites qu'on est au creux de la crise, je veux bien, mais en même temps, quand on regarde sur 2024, donc pour vous, le creux de la crise, c'est aujourd'hui, donc devant vous, vous avez encore toute l'année 2024. Lorsqu'on voit le taux de réservation, par exemple, chez vous, Nexity, on a quoi s'inquiéter ?
Ben, vous ne voyez que 2023 à ce stade, sauf erreur de ma part, vous ne voyez pas 2024.
Oui, mais 2024 ne sera pas meilleur.
Ça, c'est une bonne question et je pense que nous, à ce stade, on fait l'hypothèse que
c'est une logique, c'est pour ça que je vous pose cette question.
2023,
comme ça.
Parce qu'on est prudent, mais dès qu'il y a un peu de baisse de taux d'intérêt, dès qu'il y a un mouvement un peu palpable du gouvernement, les choses peuvent reprendre. D'ailleurs, on sent un peu de reprise là sur la vente. Alors, c'est pas. Mais on sent un frémissement. Et puis, les Français ont juste besoin de se loger.
Est-ce que lorsque vous voyez tout ce qu'en font les. Tout ce qu'on donne, on fait, et à juste titre, tout le gouvernement fait pour les agriculteurs, vous n'êtes pas en train de vous dire, un peu comme commence à dire, les gens du BTP qui vont être impactés d'une manière très très forte, ça nous fera le lien vers le plan social que vous préparez. On dit qu'il y a 300 000 personnes aujourd'hui dans le BTP qui pourraient être licenciées avec l'impact de cette crise de l'immobilier. Est-ce que vous trouvez qu'il serait temps que le gouvernement, vous avez dit, je sens quelque chose, mais qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ?
Alors, vous avez raison, quand on voit ce qui se passe sur les agriculteurs, évidemment, il y a des moments où on se dit, il y a des choses qu'on entend et qu'on comprend. L'effet des normes, Ça, je le reconnais, ouais. Et je pense que les agriculteurs ont aussi les normes européennes que nous, on a un peu moins. Et puis, évidemment, nous, on se dit que ce qu'il faut vraiment faire, et ça, je pense que le gouvernement l'a entendu, ce qui vraiment s'effondre le plus, c'est l'investissement des particuliers en logement. Tout simplement parce que la hausse d'intérêt a rendu ce placement moins intéressant. Et c'est ce qui a le plus chuté l'année dernière. L'année dernière, cette partie-là du marché s'est effondrée de 50%. Donc moi, je comprends. Et effectivement, le retrait du Pinel en même temps, une mesure pro-cyclique, ça a vraiment accéléré la chute de l'investissement en immobilier. C'était une mauvaise décision, mais ça, on l'a dit plusieurs fois.
Je ne sais pas si vous avez vu ce coup de gueule de votre homologue de Altarea, Jacques Hermant, qui parle à propos de Bruno Le Maire et qui dit c'est un peu l'anti-arroseur arrosé. Parce que il dit Bruno Le Maire cherche 10 milliards d'économies, mais en fait il suffisait non pas d'arrêter de pas supprimer le Pinel, de peut-être d'arroser un peu le secteur du logement pour permettre la vente de logements. Il aurait gagné 2 milliards en plus de TVA. Est-ce que vous partagez ce raisonnement? Est-ce que le fait que le gouvernement considère que le logement coûte trop cher et donc toujours un peu sabré, la preuve, la fin du Pinel dans le secteur de l'immobilier, ben finalement aujourd'hui ça lui retombe dessus?
Là, je dirais les choses différemment. Je dirais ce que j'ai dit au fond au ministre que j'ai pouvoir. Moi, quand j'étais à Bercy, il y a fort longtemps, on se méfiait beaucoup des économies qui coûtent. Vous savez, les économies qu'on brandit, etc. Ouais. Ah, puis on l'a fait, puis hop, derrière, eh ben, cette économie coûte. Moi, je pense c'est que l'économie sur le Pinel, c'est une économie qui coûte. Effectivement, le gouvernement voit des pertes sur la TVA. Ben oui, c'est normal, puisque nous, on construit, on lance moins de chantiers. Il va y avoir beaucoup de pertes d'emplois dans le BTP. À mon avis, à peu près 300 000. C'est écrit maintenant. Hein. C'est les réservations de l'année dernière. Il n'y a pas de réservation. Il n'y aura pas de chantier. 150 000 à peu près sur le collectif, 150 000 sur la maison individuelle. Donc
300 000 dans le BTP.
Mais bien sûr.
Ouais.
Et c'est écrit. C'est mécanique.
Ouais.
Donc je pense que tout ça fait que effectivement, et je pense qu'il y a des pistes de réflexion aujourd'hui. Moi, je vais beaucoup au Parlement. Franchement, à la fois l'Assemblée nationale, au Sénat, les députés sont vraiment au clair sur ce qui se passe. Je comprends qu'il y a des réflexions sur le statut du bailleur privé, qu'il y aurait des réflexions sur la proposition faite par la Fédération des promoteurs immobiliers, qui est la fameuse mesure Balladur. Si vous achetez un logement neuf, vous pouvez le transmettre sans droit de succession. Je pense que des réflexions ont lieu en ce moment.
Oui, mais vous,
sur ce sujet-là.
Vous, Véronique Bédard, puisque vous dirigez encore une fois le premier promoteur immobilier, que vous avez été à Matignon, qu'on vous aurait proposé Matignon, je sais que vous détestez qu'on dise ça, mais voilà, quand même, ça montre que vous avez une vision peut-être un peu plus générale. Est-ce que ce serait quoi, là? Demain, vous êtes nommé ministre du Logement, vous êtes nommé à Matignon, c'est quoi vos trois mesures pour sortir de cette crise?
Je pense qu'il faut vraiment traiter le sujet de l'investissement locatif.
Mais comment? On remet un Pinel ou quoi?
La mesure qui convient au gouvernement, l'essentiel, c'est de ramener du rendement. Le problème de l'investissement locatif aujourd'hui, c'est des taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté, donc forcément. Et puis quand même, derrière, vous avez une fiscalité qui est quand même très spécifique, on va dire. Vous avez de l'impôt sur le revenu. Vous avez une taxe foncière qui augmente quand même de 7% par an en ce moment. Il n'y a aucun autre placement en dividende ou en obligation
qui résiste à ça.
Et si vous avez survécu aux deux premiers, vous pouvez éventuellement tomber sur le coup de l'IFI. Donc ça n'est pas juste. Ça n'est pas. Enfin, il faut ramener une concurrence juste entre l'investissement en logement, l'investissement en obligation ou en action. Pour l'instant, ça n'est pas le cas.
Oui, mais
c'est ça qui doit être fait tout de suite.
Oui, mais une question un peu de votre béotienne, et je m'en excuse. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le logement a toujours besoin d'être subventionné?
Parce qu'il est surfiscalisé.
C'est ça, donc à la limite, il faudrait...
Le logement, il est
défiscalisé.
Et d'autre part, je vous rappelle que son rendement est contrôlé. C'est-à-dire que les loyers sont soit bloqués, soit... voilà. Donc, c'est un investissement qui a des caractéristiques particulières.
Il faudrait construire combien de logements neufs? Parce qu'en plus,
c'est une très bonne question,
oui.
Parce que vous vous souvenez en ouverture du CNR,
Conseil national de refondation
sur le logement,
oui, sur le logement que vous présidiez, du reste
avec Christophe Robert
de la Fondation l'Abbé Pierre.
La représentante du Trésor avait dit bon voilà, selon nos calculs, il faut 200 à 250 000 logements neufs par an. Bon alors, on va y être, on va voir ce que ça donne à la rentrée 2026. là, il y a un progrès. Moi, je constate que les chiffres qui sortent aujourd'hui sont bien. Alors, il y a plein de sources. Il y a l'USH, évidemment. Il y a aussi la Caisse des dépôts qui avait fait une étude il y a quelques mois. Il y a désormais, il y a quelques jours, le Conseil national du logement, qui est un organisme présidé par un député de la majorité auprès du ministre de logement, qui dit « on a bien tout regardé, il faudrait maintenant 450 000 nouveaux logements, donc neufs ou rénovés par an ». Donc, je pense qu'on est quand même en train de se rendre compte qu'il y a un problème de logement dans ce pays.
Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous êtes plutôt optimiste. On est au creux de la crise. Hein, vous venez de nous le dire. Vous voyez plutôt des chiffres, des événements positifs comme une baisse des taux éventuels, des mesures prises par le gouvernement. Pourquoi vous avez décidé d'engager ce plan de sauvegarde de l'emploi ?
J'ai été la première à alerter sur la crise. Vous vous souvenez, c'était en 22. J'avais dit, attention, ce qui est en train de se dessiner va être vraiment extrêmement violent. On m'avait trouvé pessimiste à l'époque. Mais moi, je vais être aussi la première à me transformer, à transformer l'entreprise. Parce que là, pour le coup, ma conviction, c'est qu'en sortie de crise, notre métier ne sera pas le même qu'en entrée de crise. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de réorganiser mon entreprise. D'abord, pour qu'elle colle davantage au territoire.
Nouvelle organisation.
Vraiment, et je pense que c'est de plus en plus vrai, on n'intervient pas dans le sud de la France comme dans le nord ou dans l'ouest. Je vais demander à mes patrons d'être capables de construire plein de produits différents, pas simplement du logement ou du bureau. Et donc, c'est cette réorganisation que je suis en train de faire. Et dans la réorganisation, évidemment, on va s'adapter au nouveau marché. Le marché a perdu quand même à peu près 40% depuis 2 ans. Nous, on est qu'à 30%. Il faut évidemment que je redessine mon entreprise. On ne va pas regagner 40% de marché en 6 mois.
Oui, mais alors, vous avez, à ce jour, vous avez 8200 salariés. Parmi eux, il y a 3100 salariés qui devraient sortir du groupe au mois d'avril, puisque vous avez vendu votre filiale d'administrateur de biens. Donc là, on n'est plus qu'à 5000, hein, 5100. Vous dites, j'ai eu 30%.
Il n'y a pas que de la promotion à l'intérieur, oui.
Oui, donc quoi, il faut réduire les effectifs du 30%, c'est à peu près ça?
Non, c'est pas, heureusement, ça n'est pas, d'abord, ces chiffres-là comportent encore des services, et puis ça n'est pas si mécanique que ça. Vous savez qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement exigeant. On vous demande de décrire tous vos organigrammes et tous vos modes de fonctionnement. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien, on saura de combien nous allons sur combien d'emplois vont porter.
Mais votre objectif, quoi, c'est 5000 salariés pour...
Non, j'ai pas d'objectif.
Au nouveau, Nexity, recalibré avec la vente de l'international,
je ne vais pas faire à la tête de mon entreprise ce que je reproche à d'autres de faire, c'est de dire rentrer 2 chiffres dans un tableau Excel et dire bonjour, le résultat, c'est ça. Ça, vraiment, je pense que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, je suis vraiment en train de me poser avec mes équipes pour dire voilà, on bascule sur un autre mode de fonctionnement et puis ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez et des marchés et on en tirera les conséquences en termes d'emploi d'ici quelques semaines.
Et vous pouvez pas, comme font certains de vos concurrents, mais peut-être redéployer vos forces?
Écoutez, on verra, mais pour l'instant, j'ai moins de services. La proportion quand même de la promotion et de tout ce qu'on fait en opérateur urbain est très important dans mon équipe. Donc tout ce qui pourra être fait sera fait.
Si c'était un plan qu'il fallait qualifier, ça serait un plan massif, ça serait un
Non, un plan d'ajustement au marché et un plan qui va traduire, vous le verrez quand on le sortira, la transformation de Nexity. On va, nous, vraiment sortir de la crise prêts pour les nouveaux marchés de la vie urbaine qui vont vraiment être différentes. Le fait qu'on soit vraiment sur de la régénération urbaine, sur du cœur de ville, sur de l'amélioration des entrées de ville, eh bien, ça n'est pas le même métier.
2024, en un mot, un adjectif, un qualificatif, oui.
Eh bien, c'est le moment de la transformation. Je sens vraiment cette année-là pour nous comme celle de la chrysalide.
Est-ce que vous allez racheter des titres? Est-ce que vous allez racheter des titres? Vous, est-ce que Alain Dinin va racheter des titres? Est-ce que c'est le moment de racheter des titres?
J'en ai racheté ce matin.
Ah bon? Ben, c'est un signe de confiance.
Mais oui, mais j'y crois, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais évidemment.
Merci d'être venu aujourd'hui avec ce cours de bourse qui est un peu trinqué, on peut le dire comme ça. Mais comme vous dites, on est au creux de la vague. Donc évidemment, vous espérez que 2024 sera mieux. Merci beaucoup, Véronique Bédag, donc la présidente de Nexity, premier promoteur immobilier.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
19h35 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Et nous sommes donc ce soir avec le meilleur de la rédaction de BFM Business, Mathieu Pechberti. Bonsoir. Jean-Baptiste Thuet, bonsoir. Emmanuel Lechypre, bonsoir.
Bonsoir.
Edwige Chevrillon, vous venez de recevoir, rebonsoir, la PDG de Nexity, Véronique Bédague. Donc Nexity, on le rappelle, c'est le premier promoteur immobilier de France. Séance boursière compliquée ce matin, ouais, parce qu'ils ont quand même perdu 20%. Donc ils se retrouvent au milieu d'une tempête et ils se retrouvent aussi face à des choix stratégiques.
Oui, mais en même temps, c'est pour ça qu'elle s'est voulue rassurante, Véronique Bédague. Elle expliquait qu'on est au creux de la vague, c'est-à-dire qu'on touche le bas. Elle pense que la baisse des taux d'intérêt, c'est pour demain ou après-demain, oui, en tout cas c'est pour bientôt. Elle a l'air convaincue, pour une fois, ce qui n'était pas le cas avant, que le gouvernement va faire des choses. Donc il faut quand même rappeler qu'on lui avait proposé le poste de Premier ministre, donc, et qu'elle a été à Matignon, elle a été la directeur adjointe du cabinet de Manuel Valls. Donc elle a une vision quand même un peu globale, et elle pense qu'il y aura des mesures qui vont être prises. Il faut se rappeler que dans le discours de politique générale, effectivement, elle le rappelait, Gabriel Attal a dit qu'il fallait aller chercher avec les dents les logements, choc d'offres, choc de demandes. Je vois qu'Emmanuel Lechypre est un peu... Oui, mais il l'a dit. Après, elle y croit. Et surtout, c'est qu'elle voit que ça commence à frémir dans ses chiffres à elle. C'est ça qui est important. Cela dit, il y a quand même un plan social. Ouais. Et qu'elle pense que la crise sociale va être importante. Et elle disait, notamment dans le BTP, là, la crise sociale va être de 300 000. Moi, j'étais restée sur des chiffres qui étaient bien moins élevés.
C'est ça le problème, effectivement. Elle dit, on est au creux. Mais justement, c'est maintenant que les programmes des promoteurs s'arrêtent et qu'il n'y en a pas d'autres derrière de réservés que véritablement, ça va devenir une saignée dans le secteur de la construction. Oui, il y a ce chiffre que rappelait le patron de la FEB, 300 000 postes qui pourraient être supprimés d'ici 2 ans. Ça va être longue la vague à digérer quand même, Emmanuel, finalement.
Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, il y a eu dans le discours de Gabriel Attal des quelques éléments, sauf qu'il faut quand même rappeler que avant que Gabriel Attal soit nommé Premier ministre, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dépensé beaucoup d'énergie dans le fameux Conseil national de la refondation consacré à l'immobilier, au logement qu'elle présidait.
Qui n'a servi à rien, en tout cas pour le moment.
Exactement, c'est-à-dire qu'en gros, dans le discours de Gabriel Attal, il
n'y
a aucune des propositions qui ont été reprises. Donc moi, je veux bien que Gabriel Attal, miraculeusement, il découpe, parce que c'est quand même le champion du Yaka Faucon pour le moment. On va faire ci, on va faire ça, jamais on sait comment. Il y en a des dizaines qui ont promis les mêmes choses avant lui et on n'y est jamais.
Bon, en même temps, il vient d'arriver, Emmanuel Lechypre.
Mais encore une fois, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'est-ce qui, dans ses propos ou dans son comportement, nous laisse penser que cette fois-ci, ce sera différent. Et la réponse, c'est rien. Voilà. Donc, a priori, je suis plutôt inquiet si elle compte uniquement là-dessus pour s'en sortir.
Je suis
beaucoup plus confiant quand elle dit que, elle, sur ses indicateurs, on a tout un tas de, peut-être, de voyants qui sont en train de passer, qui étaient au rouge, qui repassent peut-être à l'orange. La réalité, c'est que malheureusement, on est effectivement sur un... Ce sont des marchés paquebots, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrêté, que vous êtes en calminé, c'est très long de repartir. Surtout qu'en plus, ce sont vraiment tous les rouages du marché de l'immobilier qui sont bloqués, et c'est tout le parcours de logement des Français qui a été complètement paralysé. C'est-à-dire, depuis la location, le logement social, l'accession à la propriété, la résidence secondaire, etc., ce sont tous les pans entiers du marché qui sont aujourd'hui
bloqués. Oui, mais justement, c'est ce que vous dit Véronique Bénac, c'est que non seulement elle a confiance en la parole et en la politique de Gabriel Attal, mais aussi du nouveau ministre du logement. Et c'est quand même la première fois qu'on entend ça.
Et de la Banque Centrale Européenne aussi, ce qui n'est peut-être pas très non plus... spéculer sur une possible baisse des taux.
La baisse des taux, je pense, en tous les cas, ce qu'elle dit, ça, je pense qu'on est tout le monde d'accord et autour de cette table pour dire qu'il n'y aura pas de hausse des taux.
Non.
Mais Edwige, on n'est pas dans une crise où le problème, c'est la demande.
Il y a l'offre et la demande.
Si les taux baissent, vous aurez peut-être effectivement. Et là, il y a des signes encourageants. Effectivement, on voit que du côté des banques, tout ce qui est, par exemple, l'apport, etc., les conditions se détendent quand même un peu. Ça, effectivement.
Elles ont été beaucoup trop resserrées.
Mais voilà. Après, est-ce qu'en face, on a des logements
Franchement, si vous en êtes à vous remettre à une baisse des taux d'un point cette année pour résoudre une partie du problème, c'est quand même un petit peu désœuvré, quand même. Faut le dire.
Oui, moi je. pense que quand même du côté de la demande, ce qu'elle est, sur l'analyse de la crise, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, c'est vrai qu'elle est inédite parce qu'elle est dans la demande et dans l'offre. Elle est inédite par son intensité, elle est inédite pour les raisons pour lesquelles il y a cette crise, et que c'est un peu historique en tous les cas pour tous les gens.
C'est,
pour tous les
c'est une polycrise, tous les Mathieu.
Professionnels. Profondément de durée, pas 10 ans. Avec un micro, ça irait peut-être mieux.
Voilà, ça y est.
C'est bon.
C'est bon. Ça y est.
Non, mais je disais que la crise de l'immobilier va durer, ça ne va pas s'arrêter. Si la BCE commence à baisser ses taux en fin d'année, ça ne va pas. Enfin, il y a, comme le dit Emmanuel, un temps de latence extrêmement
2025,
important.
2026
alors, pour relancer
mieux.
Les projets de construction, c'est énorme. Et alors, quant aux aides à la construction, Marie-Cœur de Rome, on parle tous les jours chez nous, on sait bien qu'il n'y aura pas le début de la queue d'une cerise. Le gouvernement est en train de tailler dans tous les budgets possibles.
Coup de Pinel.
Et Emmanuel Macron n'a jamais fait du logement et de la construction une de ses priorités depuis 2017.
Ouais, c'est le coup de gueule, du reste, très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu de Jacques Herman, qui est le directeur général d'Aterea, qui est un autre grand promoteur immobilier, et qui dit, mais c'est complètement débile, parce que effectivement, à Bercy, chez Macron, on pense que le logement, ça coûte cher. Donc il faut, d'où la fin du Pinel, d'où les économies faites sur le dos du logement.
Emmanuel Le Chypre,
encore une fois,
qui rapporte quand même beaucoup d'argent.
Pour conclure, Emmanuel.
Encore une fois, on l'a souvent dit ici, c'est-à-dire que le vrai ministre de l'économie, encore une fois, c'est Excel.
Oui, ça,
et
ça.
Que c'est non mais
ça,
parce
ça,
que
c'est la grande formule.
Mais c'est parce que c'est parce qu'on voit bien qu'on est dans l'approche exclusivement comptable et même pire que comptable, c'est-à-dire que on ne voit même pas. On ne prend même pas en compte la moindre dynamique, c'est-à-dire la dynamique parce que on dit ça coûte plus de 30 milliards, mais ça en rapporte 90. Les emplois, ce qu'apporte aujourd'hui, ce qu'apporterait aux Français,
l'amélioration
des conditions de logement, le pouvoir d'achat que ça redonnerait aux Français, etc. Et ça, on ne le voit pas. Et effectivement, c'est une crise unique, à la fois par, on l'a dit, parce que tous les rouages sont bloqués, parce que elle est multicause. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Si vous prenez la crise de 93,
elle
par exemple...
Elle est polyforme.
C'est ça. C'est une crise de la spéculation, et notamment dans l'immobilier de bureau. Si vous prenez 2007, c'est une crise essentiellement du crédit. Là, vous avez la crise du crédit. Vous avez toutes les problématiques...
conjoncturelles et structurelles.
...liées aux contraintes environnementales, etc. Vous avez les problématiques de la construction. Donc, on est sur une crise immobilière comme on n'en a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Allez, il faut qu'on accélère. Voilà pour cette crise immobilière. On en reparlera, c'est pas nouveau, et on reparlera bien sûr juste déjà jusqu'à 20h nous sur BFM Business. Absolument. 18h41, voici l'heure du point Atos, mesdames et messieurs, quasiment comme tous les
soirs. Le point quotidien,
restez avec nous s'il vous plaît.
Mathieu Pechberti est donc descendu pour ce faire. Alors Mathieu nous disait hier soir avec des infos maison, les siennes, que David Kretinsky n'était plus
Daniel
Kretinsky, qu'est-ce que j'ai dit, oui. Oui, parce qu'il y a un David dans l'eau.
Oui. David Lagnani, Daniel Kretinsky. Voilà.
Daniel Kretinsky ne discutait plus avec Atos pour la reprise des infogérances. Et ce soir, vous nous dites, Mathieu, qu'il y a un match qui se prépare entre... Oui, on les voit derrière nous,
sur
la télévision.
Voilà.
Daniel Kretinsky et David Lagnani, sauf qu'apparemment, cette voix, Daniel Kretinsky, je vais y arriver... Il va avec de plus grosses ambitions, c'est ça l'idée.
Oui, non, mais ce qui est évident, c'est que Daniel Kretinsky, qui est sur ce dossier Atos depuis un an maintenant, le fait d'avoir rompu ses négociations, effectivement, hier, pour acheter une partie des activités d'Atos, il ne rentre pas chez lui à Prague comme ça. On est en train d'entrer dans une autre phase d'Atos, qui est une phase maintenant... alors, on n'est pas formellement dans une procédure judiciaire, parce que c'est un mandat ad hoc, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, où... Atos va être, entre guillemets, co-géré par la mandataire ad hoc qui est Hélène Bourboulou. Mmh. Et donc la fin de ces négociations ouvre la voie à cette nouvelle étape où la société va négocier des nouvelles échéances bancaires, par définition, avec ses créanciers. Et qui dit nouvelles échéances bancaires, dit il faut remettre de l'argent dans la boîte.
Voilà. Mais alors, juste question, parce que avant de donner la parole à Edwige, on est bien d'accord que c'est Daniel Kretinsky qui a les poches les plus pleines, qu'il se retrouve face à un plus petit que lui, qui est en effet David Lagnani, mais qui est néanmoins aux premières loges, puisqu'il est le premier actionnaire d'Atos aujourd'hui à hauteur de 11% du capital. Donc, il est quand même plutôt bien placé,
effectivement,
David Lagnani.
David Lagnani, donc le fondateur de OnePoint, c'est le premier actionnaire d'Atos depuis quelques semaine, hein, il a 11%, il vient d'entrer au conseil d'administration, ça a été annoncé aujourd'hui, mais on le savait déjà depuis quelques semaines. Il a signé de multiples accords commerciaux, industriels pour essayer un peu de verrouiller sa position, enfin il est partout, de toute façon il est complètement obsédé par Atos depuis maintenant plus de deux ans.
Il a ce projet fou, One Atos.
Oui, alors ça c'est une appellation marketing dont il a le secret, mais voilà, donc il veut l'idée, lui comme il n'a pas l'argent, il a sa boîte. Donc son idée c'est d'apporter sa société qui s'appelle OnePoint, qui vaut combien, je ne sais pas, lui dit un milliard,
je pense que c'est quand même moins, mais enfin bon, d'apporter sa société Atos, il a fusionné à sa société OnePoint, pardon,
à Atos
pour la fusionner et se servir de ça pour faire levier et prendre le contrôle d'Atos. Bon, quand c'est dit comme ça, c'est voilà, c'est formidable, c'est des beaux plans de banquier d'affaires, mais ça marche pas totalement comme ça, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc lui, il fait figure effectivement d'industriel. Du secteur, il est présent au capital, il est présent au conseil d'administration, donc il sera de toute façon incontournable.
Petit sauf acteur qui avance ses pions, donc.
Sauf qu'il n'a pas d'argent. Et il se présente comme ça, parce qu'évidemment...
Il n'a pas d'argent, il en a moins.
Il présente... Non, pas vraiment. Voilà. Et il présente son adversaire, évidemment, comme... l'investisseur financier non.
Bah, le grand méchant loup, évidemment. Edwige Chevrillon.
Non, juste un point peut-être. D'abord, il faut qu'on trouve une solution de place très rapidement, parce que la cybersécurité des Jeux Olympiques, il y a le nucléaire, enfin, à chaque fois, on en parle tous les soirs dans ce point Atos quotidien. mais donc là, ça commence à monter, il faut trouver une solution de place rapidement. Premier point. Daniel Kretinsky, c'est sûr que c'est lui qui a les poches les plus remplies, même si, de leur côté, on dit qu'il est peut-être en embuscade. Mais qu'en tous les cas, pour l'instant, il faut qu'on vienne le chercher. C'est pas lui qui va y rechercher. Parce qu'il a été quand même un peu échaudé par l'accord qui a été signé. À David Layani, d'accord, il a 11%, mais c'est beaucoup endetté. Il a acheté cher. Et donc, il n'a pas la surface financière aujourd'hui. Donc, il doit être très endetté. Et donc, il faut qu'il trouve une solution, lui aussi, pour son endettement. Et c'est les 11%, alors, comment il les finance.
Match déséquilibré ou pas, alors?
Oui, non, mais et puis, est-ce qu'il y a une nationalisation temporaire qui peut éventuellement se mettre en place le temps qu'un actionnaire, enfin, que le bon actionnaire, et en l'occurrence français, soit trouvé?
Ce qui pose problème depuis un an, on l'a tellement dit, mon Dieu. Ce sont ses activités de cybersécurité et les supercalculateurs de l'OTAN.
Ils sont très stratégiques.
Je connais mieux que moi, d'ailleurs. Et c'est pourquoi le gouvernement s'est agité, a dit pas touche, et on est en train de négocier pour vendre ces activités sensibles, en tout cas dites de souveraineté nationale par le ministre de l'économie, à Airbus, un groupe privé coté en bourse, mais dans lequel il y a l'État français au capital.
Voilà.
Donc à un moment où ces activités seront vendues à Airbus, ce qui n'est pas encore le cas, Jean-Baptiste sait ça aussi bien que moi, parce qu'Airbus est un peu prudent sur ce dossier. Le reste, c'est des services informatiques, donc il n'y a rien de... Bon. On va pas relancer ce débat.
Non. Ouais, mais...
On n'a pas le temps. Il va se matérialiser quand, ce bras de fer, alors, pour vous
là? Écoutez, là, l'administratrice judiciaire, enfin la mandataire, pardon, ad hoc, Hélène Bourboulou, est en train de mettre le nez dans les comptes d'Atos. Donc, autant vous dire que ça va prendre un peu de temps, parce que personne n'y voit clair. Et on y verra un petit peu plus clair mi-mars, fin mars. Voilà. Et ensuite, il y aura forcément des offres d'investissement, de reprise, d'injection de fonds de ces deux hommes sûrement, peut-être d'autres, mais pour le moment, on ne voit que ces deux.
Ce qui est intéressant, juste pour conclure, c'est que Hélène Bourboulou, c'est elle qui a fait le plan sauvegarde de casino. Donc, casino où il y a Daniel Kretinsky. On retravaille sur Atos où il y aura peut-être Daniel Kretinsky. Voilà.
Et alors, juste avec une action aujourd'hui, l'action d'Atos, Mathieu, on en est à combien?
2 euros, je crois.
2 euros, voilà.
Depuis le temps.
Bon, c'est le moment d'acheter. Ou pas.
Elle était à 60 quand il est parti.
Bon, ça va nous faire le printemps et l'été, ça, c'est très bien. Merci Mathieu. Voilà. Quand vous voulez.
À demain, donc.
Oui, à demain. Beaucoup de réactions, évidemment, encore aujourd'hui, aux bénéfices annoncés hier soir par la SNCF, 1,3 milliard d'euros. Bah, tiens, on va écouter Fabien Villedieu, représentant Sudrail CGT, qui dit, ils sont très bien ces résultats, mais il faudrait que les cheminots soient récompensés en l'état. Puis vous me direz après ce que vous pensez de ces résultats. Fabien Villedieu, Sudrail SNCF.
Lundi prochain, on a une intersyndicale avec normalement l'ensemble des organisations syndicales et nous, on va poser la question d'une nouvelle mobilisation sur l'histoire des salaires.
Donc quand ça va pas bien, grève. Quand ça va bien, grève.
Ça dépend, ça va pas bien. Ça va bien pour la SNCF, vu qu'elle fait des bénéfices. Voilà. Par contre, ça va pas bien pour les cheminots. Et je rappelle que ces bénéfices, ils tombent pas du ciel. C'est le fruit du travail des cheminots. On nous dit, les cheminots, vous êtes pas productifs. Voilà, on passe son temps à nous expliquer qu'on n'est pas productif. J'ai regardé, parce que je me suis renseigné, on est l'entreprise ferroviaire la plus productive d'Europe.
L'entreprise ferroviaire la plus productive d'Europe. Ont-ils raison, ces cheminots, de vouloir faire grève tout le temps, donc? Mathieu Pechberti ou Emmanuel Le Chypre, qui se lance? Allez.
Il est debout depuis 24 heures pour parler de la
SNCF. C'est vrai que si vous regardez les chiffres de productivité, objectivement, depuis 3 ans, on peut dire qu'entre 1,5% et 2% par an d'augmentation de la productivité, c'est pas négligeable. Donc oui, il y a une augmentation de la productivité. Après, ce qui est quand même un peu fort de café dans les critiques qu'on formule à la SNCF, c'est-à-dire que quand ils perdent de l'argent, on dit c'est mal géré, c'est un scandale, on dilapide l'argent public, et puis le jour où ils font des profits, on dit c'est scandaleux, ils font des profits, etc., sur notre dos, en faisant payer les billets très
chers. Rendez-nous l'argent.
Rendez-nous l'argent, ouais. C'est un peu ça. Donc, c'est surtout... Il y a deux choses qu'on oublie toujours un peu, parce qu'on est toujours focus, enfin au moins le grand public est toujours focus. En gros, la SNCF, c'est les TGV, les trains de banlieue, et puis, les TER et les trains régionaux. Mais la réalité, c'est que la SNCF, c'est beaucoup plus que ça. C'est Keolis, la SNCF, elle est quand même présente dans 170 pays.
Oui, alors avec des métiers annexes qu'on connaît moins, mais qui sont pour autant très rentables.
Mais bien sûr.
Et on se demande pourquoi elle est présente dans 170 pays, elle ferait mieux d'être concentrée.
Oui, mais c'est parce que c'est moins compliqué. Et c'était le deuxième point que j'allais évoquer. C'est-à-dire qu'en gros, il y a ça. Il y a Geodis, qui est quand même un très grand de la logistique aujourd'hui. Et puis, il y a quand même cette pauvre SNCF, entre guillemets, qui est victime d'un actionnaire qui est complètement schizophrène. Pauvre. C'est-à-dire qu'il a des exigences totalement contradictoires, c'est-à-dire qu'il veut de la rentabilité, qu'il veut faire des investissements massifs, mais que c'est la SNCF qui les paye, et ça c'est vrai que c'est quand même la seule à devoir financer ces infrastructures, ce qu'on n'a jamais demandé au transport routier.
Enfin, l'État a quand même repris à sa charge les 35 milliards d'euros de dette au terme de la réforme ferroviaire.
Encore une fois, il n'y a rien d'anormal là-dedans, dans la mesure où la SNCF est encore une fois la seule entreprise à laquelle on a demandé de financer ces infrastructures, ce qui n'est pas le cas dans les autres secteurs. Et puis encore une fois, l'aménagement du territoire, être obligé de desservir des lignes qui sont pas rentables et en même temps être en concurrence.
Oui, mais ça c'est le choix des régions.
Non, c'est pas le choix des régions, c'est le choix de l'État qui veut encore une fois une entreprise rentable et qui veut pas et qui veut la paix sociale. Donc il faut qu'elle se débrouille de tout ça. Et moi je trouve que depuis 3 ans, on est rentré dans une nouvelle période où après avoir un peu délaissé le ferroviaire et le capital humain de la SNCF pendant les années où on a tout misé sur le commercial.
Alors là, avec Farandou, on revient dessus quand même.
Oui, on a une SNCF qui revient aux fondamentaux du chemin de fer et qui réinvestit un peu sur le capital humain.
Et qui donne la priorité au dialogue social.
Qui devient un peu plus une entreprise comme les autres.
Et qui a commandé des rames, plus d'une centaine de rames. Voilà, pour répondre à une demande qui est
alors
incroyable.
Alors avec du retard.
C'est ça qui les frustre, c'est que la demande a été telle.
Rappelons quand même, là on parlait de l'État tout à l'heure, le manque de vista quand même délirant. C'est-à-dire qu'au milieu des années 2010... parce qu'effectivement, il y a trop de TGV en circulation qui ne sont pas assez rentables, la SNCF se déleste d'une centaine de rames de TGV. On parlait déjà de la transition écologique. On se disait déjà quand même un petit peu quelque part que le ferroviaire, c'était peut-être un peu l'avenir d'un transport un peu plus propre. Eh ben non, rien du tout. On a supprimé, au nom d'une logique comptable, 100 rames qui manquent aujourd'hui.
Et là, on a recommandé à Alstom, je crois, 112 rames, quelque chose dans ces
heures. Et Alstom a du retard.
Emmanuel est en train de dire, Jean-Baptiste Tour, aux fondamentaux pour la SNCF, c'est vrai. Là, ils nous ont annoncé quelque chose d'important aujourd'hui, alors qu'ils passent un petit peu sous les radars.
Oui.
Et ils nous préviennent 6 mois ou 8 mois en avance de très importants travaux
qui
vont avoir lieu sur la ligne Paris-Lyon au mois de novembre prochain.
Du 9 au 13.
Du 9 au 13.
C'est pendant un week-end, non ? Il me semble qu'il y a un
ensemble
le week-end du 11 novembre.
De mémoire, vous allez avoir 1000 personnes qui vont simultanément travailler sur cette ligne Lyon-Paris. C'est une première mondiale. Pourquoi ? Parce que la SNCF investit dans son actif. L'actif, le seul actif de la SNCF, c'est le réseau ferré. Ce sont les rails. Ouais. S'il n'y a pas de rails, il n'y a plus de SNCF, il n'y a plus rien. Et ces rails, vous le savez, on en parle souvent ici, ils sont sous-entretenus depuis des décennies, avec des caténaires qui datent des années 60-70 pour certaines, des voies qui sont dans des états absolument calamiteux, etc. Et là, ce que fait la SNCF, ils sont en train d'upgrader leur système et de mettre en place ce qu'on appelle le ERTMS. Alors, c'est un nom barbare pour dire European Rail Traffic Management System. En gros, c'est un contrôle aérien du rail. Grâce à ce système ERTMS qui va être mis en place sur la ligne Paris-Lyon, on va pouvoir savoir exactement où est le train, à quelle vitesse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement où sont les trains, on ne sait pas exactement à quelle vitesse ils vont, ce qui est ahurissant. Et donc, on va savoir demain où ils sont, à quelle vitesse.
Mais alors, c'est une bonne nouvelle, Jean-Baptiste.
C'est une très bonne nouvelle, justement, ce qui va permettre de réduire l'écart entre les trains et donc d'avoir des lignes plus productives. Aujourd'hui, on a 13 TGV par jour sur la ligne Lyon-Paris. On va passer à 16. Bon, ça fait 25%, mais en tout cas, ce sont des gains.
4 jours de travaux et 1000 personnes pour travailler là-dessus.
C'est ça, parce que c'est aujourd'hui, ça marche à l'ancienne, c'est-à-dire que le contrôle du trafic se fait par tronçon.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des cantons, ce qu'on appelle, et ces cantons, quand vous avez un train qui est dedans, vous ne pouvez avoir qu'un seul train. Et il faut attendre qu'un train soit sorti de ce canton pour pouvoir en faire entrer un autre. Là, on passe dans une gestion qui est totalement fluide, pilotée effectivement, comme le dit Jean-Baptiste, par GPS, etc., où vous allez pouvoir augmenter quand même de 20 à 30% le trafic et la fluidité du trafic.
SNCF 2.0.
Ça, c'est un vrai bouleversement.
Mais donc, j'imagine que ces travaux vont avoir lieu sur d'autres lignes.
Ils ont déjà eu lieu. Il y a beaucoup des tronçons de lignes un petit peu partout en France qui commencent à être équipés. Bon, je rappelle quand même que ça existe depuis les années 2000, le système ERTMS. Ça devait être prêt, nous avait dit la Commission européenne, pour 2035.
Oui,
raté. Ce sera plutôt pour 2050, pour unifier l'Europe en ERTMS.
Un léger retard.
Fortune, non, mais ça coûte une fortune. Là, pour ces travaux-là, il y a eu 53 postes d'aiguillage qui ont été construits. Il y a eu un centre de contrôle à Lyon. Ça coûte des fortunes. 860 millions d'euros, ces travaux sur la ligne Paris-Lyon. 860 millions d'euros.
Vous allez les d'où les augmentations de salaire un peu compliquées.
C'est un signal très positif parce que la SNCF entretient son réseau, enfin en tout cas cherche à faire.
Et c'est très aimable de nous prévenir minimalement. On rappelle qu'on parle quand même de la ligne la plus fréquentée en Europe.
Oui, sur les augmentations de salaire.
21% pour les plus bas salaires. Et puis alors.
Sur
3 ans,
mais c'est plus que l'inflation.
Plus que l'inflation.
Oui, bien sûr.
Et là où la direction de la SNCF a été un peu piégée, c'est-à-dire que vous savez comme dans les entreprises privées où vous annoncez des bons résultats et donc vous annoncez une partie de la redistribution aux salariés. Là, la prime de 400 euros qui était destinée la SNCF a été obligée, la direction a été obligée de l'annoncer au moment de la grève, donc avant l'annonce des résultats, ce qui fait que l'effet un peu pas waouh, mais disons que l'effet, on vous récompense de votre travail. Résultat, on se retrouve avec Fabien Villedieu qui dit les bons résultats, faudrait peut-être qu'on en profite.
Et Jean-Baptiste, il leur reste quand même encore 24 milliards d'euros de dette. Hein. Je dis ça.
Encore.
Oui, absolument. Bon résultat. Les résultats 2023 ont quand même été divisés par deux par rapport à 2022, faute notamment aux grèves.
Il y a eu des événements exceptionnels.
Oui, absolument. Il faut dire aussi qu'en 2023, les grèves ont coûté 350 millions d'euros.
En 2022, il y avait eu de la vente d'actifs et ça avait rapporté.
Question de partage de la valeur entre le bénéfice, entre les actionnaires et les salariés. Je reviens un instant sur l'interview de Véronique Bédard, qui est la patronne de Nexity.
Oui.
Parce que pour justifier le fait qu'elle suspend le dividende, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres annonces comme ça faites dans les sociétés cotées. Je ne crois pas, en fait. Où elle dit, dès lors qu'il y a un PSE, on suspend le dividende. Il faut que les actionnaires, ils se mettent à la diète, un peu comme on met à la diète, évidemment, les salariés.
Les actionnaires mis à contribution.
Intéressant.
30 secondes, une belle image. Comme vous voulez vous montrer l'image, on en reparlera tout à l'heure. Emmanuel Macron qui a donc inauguré le village olympique ce matin à Saint-Denis. C'est un gros bazar quand même. Hein. C'est le village qui va accueillir les 14 000 athlètes. Ça s'étend quand même sur 52 hectares entre Saint-Denis, l'île Saint-Denis, Saint-Ouen. 82 bâtiments, 3000 appartements, 7200 chambres. La France est une grande bâtisseuse, a dit Emmanuel Macron. Ça tombe pas très bien qu'il nous dise ça aujourd'hui alors qu'on parle des difficultés de logement, peut-être. Voilà.
Il va nager dans la Seine.
Ah bon ?
Il l'a promis.
Il n'a pas dit quand.
Il a promis.
C'est bien abstenu de dire
qu'il allait nager dans la Seine.
En quelle année ?
Il y en a qui ont essayé.
Oui, avant les JO, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Comme dit l'autre, il y en a qui ont essayé. On l'a pas vu.
Ils ne l'ont jamais fait.
Ils sont morts.
C'est pas. C'est pas Mao Tse-Tung qui avait traversé le Yangtze à la nage ?
Oui. Bon. Et là, il va faire ça avec Anne Hidalgo, peut-être, parce qu'Anne Hidalgo est juste à côté de lui pour l'inauguration.
Ah, si, il y va forcément, elle va y aller aussi.
Ça, c'est l'image.
Elle ferait mieux d'envoyer son fils, mais bon.
Oui, qui est un très bon nageur, évidemment.
Allez, voilà, 18h57, c'est sur cette note souriante que se termine cette première partie. Merci Mathieu Pechberti, merci Emmanuel Le Chip, merci Jean-Baptiste Thuet, Edwige. Demain, c'est vendredi, donc on se retrouve
lundi
prochain.
Lundi, Nicolas Dufour, le patron de BPI.
Il
a annoncé une très belle année 2023.
Savoir s'il veut aller chez Atos, en tous les cas. Il a dit non.
Et voilà. 18h57, merci à tous les quatre. 18h57, on revient dans un instant, évidemment.
Oui, restez avec nous. Beaucoup de sujets pour décrypter l'actu éco. À tout de suite.